Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Donc la leçon qu'a tirée l'autorité britannique, c'est qu'il faut expliquer aux gens à quoi ça va servir exactement. Qu'est-ce qu'on veut en faire exactement, que ce soit public. Et effectivement, l'autorisation qui a été donnée est publique et on peut savoir exactement ce qui a été autorisé. Tout ça est sur Internet. La plupart des documents que je cite aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur Internet. Venons-en à la biologie du développement. C'est l'objet de ma troisième grande citation ici, où il s'agit de transplanter des cellules souches humaines de système nerveux dans des embryons non humains. Quand on veut étudier le développement, ça c'est de la recherche pure, quand on veut étudier le développement du système nerveux humain au cours de la vie embryonnaire, on peut bien sûr disséquer des embryons humains morts. Mais on n'apprend pas comment ça se passe sur le vivant. On ne va pas aller chercher l'embryon dans le sein de sa mère. On ne va pas disséquer un embryon humain vivant. Alors, comment faire ? Bien, l'idée est de transférer des cellules souches neurales humaines dans des embryons de mammifères relativement proches de l'homme, et de regarder leur destin, elles s'adaptent très bien, de regarder leur destin dans ces embryons de mammifères. En plus, on peut les tracer parce qu'elles ne sont pas tout à fait identiques, et suivre leur destin. Y a-t-il là un problème ? Est-ce qu'on a raison de faire ça ou est-ce qu'on devrait ne pas le faire ? C'est la question posée par ces trois personnes, Karpovics, Cohen et Van der Kooi, qui envisagent quatre types d'arguments contre ce type de recherche. Premier argument, c'est tabou. Mélanger les cellules humaines et les cellules animales dans un embryon et regarder l'embryon se développer, non, là vous violez un tabou. Mauvais argument. On doit respecter l'intégrité de l'espèce animale ou humaine, c'est-à-dire on ne doit pas mélanger les génomes du tout, on ne doit pas mélanger les embryons ou les cellules embryonnaires. Mauvais argument. Troisième argument, c'est pas naturel. Mauvais argument. Si c'est possible, c'est que c'est naturel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si la nature le tolère, c'est que c'est naturel d'une certaine manière. C'est dans les limites de ce que la nature supporte. Quatrième argument, c'est contraire à la dignité humaine. Ça, c'est pris par nos auteurs pour un argument sérieux et ils essayent de contre-argumenter, ça fait tout l'objet de l'article, et aboutissent à la conclusion que la limite est si vous implantez dans un embryon animal quelques cellules embryonnaires neurales humaines, quelques cellules souches neurales humaines, dispersées, ça va. Si vous implantez tout un système nerveux humain en formation, ça ne va plus. Vous ne voulez pas faire une souris ou un je ne sais quoi, pourquoi pas une souris. Vous ne voulez pas faire une souris avec un cerveau humain. Vous allez aboutir à une souris avec un... Vous risquez. Vous ne sauriez plus qu'en faire. Donc, il dit, la limite est là. On peut étudier le destin des cellules individuellement, mais on ne va pas étudier le destin de tout un système nerveux humain dans un système nerveux animal. Ça se discute, mais c'est leur argument. Je vous cite aussi ici un argument qui aurait pu être envisagé par les précédents, mais à propos d'un autre exemple. C'est un exemple analysé par Streffer dans le Kennedy Institute of Ethics Journal. Pour l'étude des prothèses à implanter sur l'homme, on utilise souvent avant, pour fabriquer la prothèse, un support animal. Il s'agit, dans l'exemple mentionné, Consider work by Yilin Kao and colleagues, il s'agit de créer une oreille prothétique pour un petit enfant de 3 ans qui a dramatiquement perdu toute son oreille. Et pour produire cette oreille, on utilise une matrice solide et on fait pousser du cartilage le long de cette matrice, sur cette matrice. Cette étape préparatoire est effectuée sur la souris. Et les auteurs mentionnés, Kao et ses collègues, image à l'appui d'une petite souris sur une boîte de pétri avec sur le dos une oreille qui pousse, une oreille en cartilage qui pousse. Ces auteurs ont montré qu'on peut faire pousser une oreille en cartilage et ensuite l'implanter sur un petit enfant. Et là, on est pris entre deux éthiques, pour ainsi dire. Oui, il faut appareiller cet enfant le mieux qu'on peut, et donc une oreille en cartilage, c'est magnifique. Et en même temps, on fait insulte à la souris. Les défenseurs de l'éthique animale disent que c'est honteux de faire subir des choses pareilles à des animaux. Si c'est pour l'espèce humaine, expérimentons-en sur l'homme. Prêtez-moi un bras, je vous fais pousser une oreille en cartilage et puis on appareillera l'enfant. Voilà, c'est un autre type d'hésitation, d'embarras. Le dernier embarras mentionné dans mon énumération est celui exprimé par Madame Johnston dans cet article. C'est toute une série d'articles dans un numéro spécial de l'année 2007 du Hastings Center Report qui s'appelle, c'est aux États-Unis, il faut réguler la génétique de la reproduction. Il faut réguler. Aux États-Unis, c'est pas réguler. On contrôle pas ce que les gens font. On peut faire n'importe quoi. Presque. Pas tout à fait. Non. Et cette dame pose la question suivante. Un enfant à deux parents du même sexe. Ah oui, ça peut arriver, deux parents homosexuels. Ou bien un enfant à trois parents, deux femmes et un homme. Ah oui, deux mères. C'est assez cool. Deux mères biologiques. La mère porteuse, puis la mère, celle qui a fourni le germe. Qu'est-ce que cet enfant va en penser? Comment va-t-il se sentir? Et Madame Johnston répond, cet enfant saura qu'elle est différente. Nous savons tous que nous sommes différents les uns des autres. Nous assumons nos différences. Ça lui fera du mal si on lui dit que c'est mal. On accepte sa différence. On souffre des jugements de valeur. Et c'est donc du côté de l'éducation qu'il faut réguler et non pas du côté de la biologie. Ça se discute. Bref, j'ai soulevé toute une série de problèmes qui sont des problèmes réels qui se posent actuellement à propos d'êtres humains et de ce qu'on doit ou peut ou devrait faire dans le cadre soit de la recherche, soit de la thérapeutique, Ce sont des problèmes qui seront soulevés lorsque, dans la biologie de synthèse, on en viendra à l'homme. On n'en est pas à ce stade en ce moment. La biologie de synthèse est dans sa toute petite enfance. C'est mon troisième point. Ce qu'on appelle biologie de synthèse est une discipline nouvelle, ou plutôt peut-être un ensemble de disciplines, ayant poussé comme champignon au tournant du XXe siècle. La naissance officielle de cette discipline a été marquée par la réunion déjà de trois congrès mondiaux de biologie de synthèse, le premier à Boston en 2004, le second à Berkeley en 2006. Rien que de cela, on peut dire que ça a démarré aux États-Unis d'Amérique. Le troisième congrès a eu lieu à Zurich en 2007, ça se rapproche, et ça arrive en Europe. L'Europe est seconde, très à la traîne par rapport aux États-Unis. Mais il y a déjà un programme de l'Union européenne. Le prochain congrès est prévu pour cette année 2008 à Hong Kong, au mois d'octobre. C'est, dit mon résumé, une discipline émergente dont on ne sait pas très bien comment l'apprécier. Certains disant qu'elle a des pouvoirs quasi divins dès maintenant, et d'autres qu'elle est le simple prolongement de ce qu'on fait déjà depuis 30 ou 40 ans et qu'on a appelé le génie génétique. C'est la simple transformation progressive du génie génétique, c'est-à-dire de l'ingénierie des gènes, à l'ingénierie biologique, c'est-à-dire l'ingénierie de la cellule. Cette transformation se prépare donc depuis l'année 1972, année où Paul Berg, aux États-Unis, a pour la première fois synthétisé un ADN recombinant, c'est-à-dire un ADN qui est la recombinaison de trois morceaux d'ADN différents provenant de sources différentes. Et lorsque les chercheurs ont été en possession de cette technique de recombinaison des génomes, ils ont été un peu paniqués à l'idée de fabriquer des bestioles qui auraient des génomes nouveaux qu'on ne trouvait pas naturellement. Et si ces bestioles s'échappaient du laboratoire et qu'elles présentaient un danger pour l'environnement? Et ils avaient, en 1975, à l'initiative de Paul Berg, aux États-Unis, réuni une conférence à Asil Omar, conférence qui restait tout à fait célèbre, parce que c'est une conférence au cours de laquelle les chercheurs se sont posé des questions de déontologie de la recherche. Est-ce qu'on doit poursuivre dans cette voie de recomposition, de recombination, de manipulation des génomes? Est-ce qu'on doit poursuivre dans cette voie? Ils ont fait un moratoire et ils ont décidé entre eux des précautions à prendre pour éviter les catastrophes éventuelles. Une fois que ces précautions ont été fixées dans des protocoles spéciaux, ils ont recommencé la recherche en suivant les directives. Depuis cette date, la biologie de synthèse peut être considérée comme en préparation. Et si elle émerge, c'est-à-dire devient visible au congrès de 2004, en réalité, elle se préparait depuis quelques années. Dès le congrès de 2004, qui donc se tient au MIT, le MIT, qui depuis cette année-là organise des concours tous les ans pour les étudiants du monde entier, hein, c'est le concours que j'ai mentionné tout à l'heure. Dès le congrès de 2004, cette nouvelle discipline s'affirme avec une ardeur juvénile et se distingue par des déclarations ronflantes, voire des rodomontades quelquefois. On réinvente la vie. Voilà ce qu'affirme Oliver Morton dans un journal qui est publié sur Internet qui s'appelle Wired. Et ce journal, Morton y a écrit après avoir écrit, enfin oui, écrit sur Internet, après avoir interviewé au MIT les organisateurs du premier congrès. Les organisateurs du premier congrès, c'était Drew Andy, un maître de conférence à l'époque, un ingénieur du MIT, et un informaticien aussi du MIT qui s'appelle Tom Knight. Drew Andy, qui est donc le jeune enthousiaste, est un passionné du jeu de logo et il se vante de pouvoir construire bientôt des super coraux qui vont absorber le CO2 et vont nous régler le problème du réchauffement climatique. C'est l'idée que par la biologie de synthèse, on va pouvoir faire des choses absolument extraordinaires. Une autre vanterie est citée par moi dans les textes que je vous ai mentionnés ici. C'est ce que dit Rasmussen, Steen Rasmussen. We want to demonstrate what the heck life is by constructing it. On veut savoir ce qu'est la vie, non d'une pipe. On va le savoir en la construisant. Savoir en construisant, voilà la devise de la biologie de synthèse. Rasmussen est l'animateur d'une équipe qui travaille au Nouveau-Mexique, ou qui travaillait à l'époque au Nouveau-Mexique, et qui s'est spécialisée dans la stratégie qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire de bas en haut. Son idée est que la biologie de synthèse va nous permettre de découvrir ce qu'a pu être la protocellule, la première cellule vivante, le premier exemplaire de cellule sur notre Terre. Et il se dit, voyons, si j'étais le créateur, pour constituer une cellule vivante simple, la plus simple possible, qu'est-ce qu'il me faut ? Un métabolisme générateur d'énergie. Je prends par exemple la photosynthèse. Je vais produire de l'énergie en captant l'énergie solaire. Quelques informations génétiques qui vont faire marcher la machine. Un génome minimal. C'est déjà toute une question. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un génome minimal comme directive pour faire marcher la machine ? Et puis, si je veux faire la protocellule, il me faut une membrane lipidique pour envelopper le tout. Et sa cellule, sa protocellule, a commencé par être une goutte d'huile sur l'eau. Une goutte d'huile sur de l'eau, ça évoque une cellule. Ça reste bien formé sur l'eau. Et quelle est la propriété recherchée comme propriété type du vivant pour cette protocellule ? Elle doit se reproduire toute seule et elle doit évoluer dans ses reproductions par mutation. Là, on peut dire que les souhaits des chercheurs ont été plus que largement exaucés. Leurs inventions mutent trop, sont extrêmement instables. Et ils souffrent de ce que les mécanismes qu'ils inventent ne soient pas fiables parce que très rapidement, les circuits qu'ils inventent mutent. Ce Rasmussen qui dit « on va savoir ce qu'est la vie en la construisant », il a une annexe à Venise, en Europe, qui s'appelle Protolife, une start-up. Et il y a là tout un groupe européen, européano-américain, qui est attelé à la tâche de savoir ce que serait la cellule minimale, la protocellule. J'ai ensuite une citation que j'ai glanée dans ETC Group. ETC Group, c'est un action group, comment dire, en Amérique du Nord, on erosion, technology and concentration. En fait, c'est une organisation non gouvernementale canadienne qui s'est proposée comme objectif de surveiller ce que font les gens qui font de la biologie de synthèse et de les surveiller de près et de les empêcher de faire des bêtises. Et ils ont fait tout un rapport assez malveillant et très instructif, car ils sont très bien renseignés sur ce que font les biologistes de synthèse. Ils citent, et c'est là que j'ai trouvé la citation, ils citent un interview qui est paru dans le Daily Telegraph, en 2006, un interview de notre cher Craig Venter, dont j'ai déjà parlé, d'un collègue de Craig Venter qui est Hamilton Smith. Le journaliste demande au chercheur « Vous jouez à être Dieu, hein ?» Et la réponse du chercheur, c'est « Ce n'est pas un jeu. » Ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. On va vraiment créer la vie, c'est sérieux. Le groupe ECT rapporte cela en disant qu'il faut noter l'hybris contenu dans cette réponse, c'est-à-dire l'orgueil du chercheur, la morgue du chercheur, mais on peut appeler ça l'audace du chercheur. Ça dépend si on est bienveillant ou malveillant. Un numéro spécial de Nature est paru en 2005 qui s'intitulait « La biologie de synthèse » avec comme sous-titre « Life is what we make it ». La vie est ce que nous la faisons. Dans ce numéro spécial de Nature, il y avait un article de fond écrit par Andy, que j'ai déjà mentionné. Andy, c'est cet ingénieur du MIT, qui est l'un des grands promoteurs de la biologie de synthèse. Et Andy, dans son article, c'est ma quatrième citation, explique la chose suivante. L'intérêt récent et qui se maintient pour la biologie de synthèse est conduit par ou vient de au moins quatre sources différentes, quatre groupes de gens différents, des biologistes, des chimistes, des rewriters, des gens qui réécrivent et des ingénieurs. Il se classe lui-même comme ingénieur. Essayons de commenter un petit peu d'après son article. Les biologistes construisent des systèmes biologiques, artificiels, mais biologiques ou imitant la biologie, pour tester leurs hypothèses de biologistes ou pour, plus exactement, pour tester des hypothèses qu'ils ne pourraient pas tester par des méthodes analytiques plus traditionnelles. Les chimistes s'intéressent à la biologie de synthèse pour des raisons assez différentes des biologistes. Les chimistes veulent développer des médicaments, développer des tests diagnostiques en utilisant les propriétés toutes particulières qu'ont les cellules vivantes en matière de chimie. Les cellules vivantes effectuent à l'intérieur d'elles-mêmes des réactions chimiques brillantes qu'on n'arrive pas à faire en milieu inerte. Et l'intérêt des chimistes est de faire par les cellules les choses qu'on n'arrive pas à faire dans les usines. dans les usines pharmaceutiques, par exemple. L'autre intérêt des chimistes, secret moins souvent avoué, c'est de découvrir l'origine première de la vie dans la chimie. Ça, c'est le rêve. L'origine de la vie est certainement chimique, se disent les chimistes. Ce que le biologiste n'ose pas refuser. Mais le biologiste dit souvent que le chimiste n'a pas le sens de la vie. Ce sens de la vie fait d'ailleurs défaut, ce sens de la vie au sens du biologiste, fait défaut à la plupart des acteurs de la biologie de synthèse, j'en ai peur. Sauf quelques biologistes de formation. Les rewriters, les réécriveurs, ce que Andy appelle comme ça, sont le plus souvent des informaticiens dont le raisonnement et dont l'intérêt pour la biologie de synthèse donc vient de ceci. Les génomes qu'on a déchiffrés sont mal foutus. Oh, la vie depuis 3 milliards et plus d'années à bricoler là-dessus n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Il y a des redondances, il y a des tas de choses inutiles, des séquences non codantes et tout ça, c'est rien du tout. Réécrivons les génomes mieux que la vie n'a su le faire, mieux que le bricolage de l'évolution n'a fait. L'approche des ingénieurs, l'approche des rewriters est donc une approche correctrice. Simplifions, faisons ça mieux. Les ingénieurs, enfin, parmi lesquels Andy se compte, ont une approche technologique et rationnelle. Et le grand outil de l'équipe de Boston, du MIT, c'est la biobrique. Ce qui signifie que l'approche de l'ingénieur est modulaire et qu'ils sont les initiateurs ou en partie des initiateurs de la biologie modulaire. J'ai ici une citation qui vient de la BioBricks Foundation, qui est une fondation de Boston, du MIT. Et vous trouvez ça online à une adresse que vous devez noter, BBF Open Wetware. Wetware. Ah, en informatique, on a le coutume de distinguer entre le hardware et le software. Le hardware, c'est la machine, et le software, ce sont les logiciels. Mais les vivants ne sont pas des machines comme les autres, ce sont des machines mouillées. Le vivant, c'est mou et mouillé. D'où le nom wetware. Wet, mouillé. Qu'est-ce à dire que dire qu'ils ont une approche modulaire, ces ingénieurs ? Ils se proposent d'identifier dans les comportements biologiques diverses fonctions. Par exemple, il y a la fonction interrupteur, allumer, éteint, allumer, éteint. De construire par des moyens biologiques, c'est-à-dire avec un gène, et puis la transcription du gène, et puis la traduction en protéines, et puis là, de construire le dispositif qui va accomplir la fonction. S'assurer que le dispositif marche, et s'il marche, le soumettre au jury qui va l'inscrire au registre, car à Boston, on tient un registre de toutes les inventions qu'on appelle biobriques, c'est-à-dire qu'ils sont des éléments fonctionnels pour un être vivant. L'accès à ce registre est libre, l'inscription au registre est gratuite, on peut puiser dans ce registre, si on veut bricoler soi-même des montages vivants, on peut puiser des informations, c'est-à-dire demander à utiliser une biobrique, une autre. Ce n'est pas payant, c'est entièrement gratuit, libre et gratuit. Et la découverte de nos étudiants, dont nous sommes fiers, c'est une des rares équipes en France qui peut prétendre faire de la biologie de synthèse actuellement. Le succès de nos étudiants a mené à une découverte qui est probablement, je n'ai pas vérifié, dans le registre, comme biobrique. La marotte des ingénieurs de MIT, c'est la cellule qui sait compter. Leur rêve, c'est d'avoir une cellule qui est un dispositif qui lui permette, par exemple, de faire « je compte jusqu'à 15 et je tourne à gauche » ou quelque chose comme ça. C'est tout simple. Mais leur obsession est qu'on doit standardiser les mécanismes vivants pour pouvoir ensuite combiner des modules standards et obtenir par ce moyen des fonctions plus complètes qui seront la somme de fonctions élémentaires. Ce qui signe leur approche à la fois mécaniste et préformationniste. Ce sont des crypto-préformationnistes, ces gens. Ils voient le vivant comme un assemblage de biobriques et comme la somme de ces biobriques. Tout est préformé dans la biobrique. Et ils sont très ennuyés quand la biobrique mute, cela. Quand leurs mécanismes sont instables, non fiables, quand au bout de 3 semaines, ça ne marche plus. Bon, j'insiste aussi sur le fait que la colonie de bactéries qui est l'invention, l'organisme bactérien, si on peut dire, l'organisme complexe bactérien qui est l'invention de nos étudiants, il est sur ordinateur, ce n'est pas un vrai organisme vivant. Pour l'instant, c'est une structure ordinateur. L'équipe de Boston est essentiellement une équipe d'ingénieurs et d'informaticiens. Il y a aux États-Unis une autre grande équipe leader dans le domaine de la biologie de synthèse et dont les caractéristiques sont assez différentes. C'est l'équipe de Berkeley. À l'université de Berkeley est la première qui ait créé une chaire pour la biologie de synthèse. Et le leader de la discipline à Berkeley s'appelle Kiesling, G. Kiesling. Donc je vous ai ici tiré un texte qui vient d'une publication qu'ils ont faite dans Nature en 2006 et qui concerne la production par biologie de synthèse d'un traitement, enfin, de la production d'une drogue susceptible de traiter le paludisme. L'équipe de Berkeley est surtout soucieuse de profiter de ce que les organismes vivants sont des usines chimiques extrêmement subtiles pour essayer de faire fabriquer à ces usines naturelles, que sont les cellules vivantes, pas des virus, mais des bactéries ou des levures, de leur faire fabriquer des substances que l'industrie chimique n'arrive pas à produire efficacement. Et ils ont identifié une de ces substances qui a été découverte, dont les propriétés ont été découvertes, je crois, en Chine, qui est l'artémisinine et qui constitue un excellent traitement de la malaria ou du paludisme, en particulier en Afrique où le parasite du paludisme est résistant à peu près tous les médicaments pharmaceutiques qu'on a. L'artémisinine, avant la publication de Kiesling et de son étudiant Rowe et de toute une équipe d'étudiants et de collaborateurs de Kiesling, il a mis 14 personnes sur la question, on va fabriquer un médicament du paludisme, ça au moins ça sera utile, et par biologie de synthèse. Actuellement, ce médicament est extrait de l'armoise, et le rendement de l'extraction est très faible, de telle sorte qu'on manque beaucoup de ce médicament dans les pays où il serait particulièrement nécessaire, étant donné la résistance aux autres médicaments. L'idée de Kiesling a été d'utiliser une levure, mentionnée ici, Saccharomyces cerevisiae, pour produire de façon efficace un précurseur du médicament. La production de la drogue elle-même n'est pas possible ou est trop difficile, mais un précurseur du médicament, et on transforme ce précurseur dans le médicament. La fondation Bill Gates a beaucoup investi dans cette recherche et continue de soutenir le développement de cette recherche pour aboutir un jour à la distribution mondiale, si possible, de ce médicament. Ce qui, bien sûr, a entraîné de grosses critiques, puisque, dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé avait encouragé les paysans africains à cultiver l'armoise, à avoir des champs d'armoise, à vendre cette armoise à Novartis, industrie pharmaceutique, qui extrait la drogue et qui ensuite fait un médicament composite d'une drogue purement chimique et de l'artémisinine. Et on va ruiner ces paysans. Donc l'entreprise soutenue par Bill Gates d'un côté est une entreprise humanitaire et de l'autre côté on dit mais les conséquences humanitaires vont être catastrophiques. Actuellement il y a un débat sournois autour de cela. Une autre idée de l'équipe de Berkeley est de faire fabriquer du caoutchouc par des tournesols ou par des plantes du désert, des cactus peut-être. Et là encore, on dit, mais ça va désorganiser le marché des pneus et des joints et tout ça, hein, marché mondial. Donc, les avancées mettent mal à l'aise et en même temps, elles suscitent de grands espoirs chez ceux qui y croient. Et chez les adversaires, il y a toujours l'arrière-pensée qu'en réalité, les conséquences sont plus perverses qu'elles ne sont bonnes. Jusqu'ici, j'ai parlé d'équipes américaines. Brenner, en Floride, l'équipe de Boston, l'équipe de Berkeley, l'équipe du Nouveau-Mexique. Et en Europe, qu'est-ce qui se passe? L'Europe a publié... La Commission européenne a publié en 2005 un grand rapport que je signale dans ma bibliographie, European Commission, Synthetic Biology, Applying Engineering to Biology. Ce rapport est un état des lieux. Essentiellement, les auteurs du rapport se sont renseignés sur ce qui se passe actuellement dans le monde dans le domaine de la biologie de synthèse et essaye de dégager des lignes directrices pour l'Europe et en particulier pour le financement par l'Europe, le financement centralisé par l'autorité européenne de projets de recherche dans ce domaine. Dans le sixième programme cadre européen, il y a déjà eu de petits financements de l'Europe pour des projets de biologie de synthèse. Et l'Europe essaye de coordonner cela maintenant sous trois entêtes. Une entête, c'est NEST, New Emerging Science and Technology. La biologie de synthèse est une discipline émergente, c'est une discipline scientifique émergente. On va encourager ce qui est en train d'émerger. Le second titre, c'est TESI. Il faut définir une stratégie de recherche et on essaye de préciser quelle sera la stratégie de recherche européenne dans ce domaine. Et le troisième titre, c'est Synbio Safe. Il faudra aussi examiner toutes les questions de sécurité, d'éthique et d'acceptabilité en Europe de ce genre de recherche. Ils ont rajouté récemment, à ma connaissance, un quatrième titre qui est « Émergence ». Tout ça, ce sont des cycles, des sigles pour s'occuper de faire enseigner la biologie de synthèse dans les universités, mais peut-être aussi dans les lycées et même peut-être à l'école primaire, puisque l'équipe de Boston, du MIT, prétend que les enfants sont capables de jouer à la biologie de synthèse autant qu'ils le sont de jouer avec leur Lego. La Commission européenne a essayé de dégager les grandes idées qui ressortent de l'entreprise mondiale, biologie de synthèse, et l'une des grandes idées retenues par les Européens, c'est ma septième citation ici, « There are a small number of projects », etc. C'est la recherche du génome minimal. Les auteurs du rapport européen sont frappés par l'intérêt que pourrait présenter la recherche du minimum génétique nécessaire pour avoir un être vivant, un être vivant qui se reproduit, un être vivant qui évolue, un être vivant qui a un métabolisme, c'est-à-dire qui utilise l'énergie qu'il trouve dans l'environnement. Et le rapport européen marque les deux stratégies que j'ai déjà mentionnées, la stratégie bottom-up de Rasmussen et la stratégie de Craig Venter, qui est au contraire une stratégie de haut en bas, top-down. Craig Venter a proclamé plusieurs fois que lui, sa voie vers la découverte du génome minimal, c'est de prendre le génome d'une petite bactérie, comme son mycoplasme, là, et puis de comment est-ce qu'on dit, contrer, d'annuler l'action d'un gène à la fois. On annule l'action d'un gène, rien ne se passe. Ce gène est inutile, on le supprime. On annule l'action d'un autre gène, rien ne se passe. Inutile, on le supprime. Et ainsi de suite. Et à force de supprimer tout ce qui a l'air de ne servir à rien, on aura le cœur qui sert à quelque chose. C'est une stratégie un peu risquée quand on connaît par ailleurs les interactions qu'il y a entre les gènes à l'intérieur du génome. Mais bon. De Vriend, qui a écrit lui aussi, mais pour la fondation Rathenau aux Pays-Bas, une exploration du champ, avec une appréciation, lui, il écrit du point de vue du grand public européen. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la biologie de synthèse qui est en train d'émerger? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Les deux grandes stratégies retenues par De Vriend, c'est la déconstruction d'un génome ou la construction d'un génome. Tout ça avec en vue l'objectif de trouver le plus petit génome possible fonctionnel. Voilà. Cet institut Rathenau à La Haye, qui a donc commandité le rapport écrit par De Vriend, a demandé une évaluation de la biologie de synthèse en même temps qu'un état des lieux. Le rapport de De Vriend m'a paru, il est trouvable sur, tout ça est trouvable sur Internet, hein, vous pouvez le charger sur Internet. Ce rapport est, me semble-t-il, bien complet, équilibré, c'est très redondant avec les autres informations qu'on peut glaner sur Internet. Il n'est pas partisan et il est extérieur au monde scientifique. Il regarde le monde scientifique du point de vue du citoyen européen instruit. Les conclusions de ce rapport du Rathenau Institute, les conclusions sont les suivantes. 1. La synthèse du vivant, pour l'instant, c'est de la science-fiction. On n'y est pas encore, on en est même loin. La synthèse d'un être vivant, on en est encore loin. Mais ce qu'on peut faire, c'est l'avant-dernière citation illustrant le point 3. Ce qu'on peut faire actuellement, c'est identifier des niveaux d'artificialité des constructions biologiques qu'on fait dans le cadre de la biologie de synthèse. Vous voyez ce qu'il dit ici, je traduis. Des organismes purement synthétiques ou purement artificiels sont encore de la science-fiction. En termes d'artificialité, la plupart des exemples sont du niveau 3. Alors, il distingue différents niveaux d'artificialité suivant que l'intervention humaine synthétique est à un niveau plus particulier ou plus général dans le fonctionnement de la cellule. Et il distingue 5 niveaux et de niveaux intermédiaires. La plupart des trouvailles sont de niveaux intermédiaires. La régulation du fonctionnement d'un gène, par exemple. Cependant, De Vriend conclut que le passage de la biologie moléculaire à la biologie modulaire est pour la biologie un changement de paradigme, un véritable changement de paradigme, une révolution scientifique. C'est son jugement, d'autres pensent qu'il n'y a pas là plus de révolution scientifique que rien du tout, qu'il y a une continuité. Lui affirme que c'est une vraie révolution scientifique et il faut y réfléchir. C'est encore un peu tôt peut-être pour voir ce que ça va donner, mais il faut y réfléchir, il faut l'accompagner. Les citoyens doivent s'y intéresser. Et on a dit il faudrait un Asile Omar 2. Il faudrait de nouveau une conférence, cette fois une conférence mondiale, qui réfléchisse sur les enjeux, sur les risques, sur les grandes directions que va prendre la biologie de synthèse. L'avis émis par De Vriend, c'est que l'idée d'un Asile Omar II n'est pas une bonne idée. Et il l'argumente comme ceci. L'Asile Omar I, celui qui a été initié par Paul Berg en 1975, l'Asile Omar I a été une réunion de scientifiques restés entre eux, entre scientifiques, qui ont décidé « Oh là là, ce qu'on fait est peut-être dangereux. Moratoire, on ne fait plus rien pour un temps, on réfléchit, on définit des règles, et puis on repart. » Ils n'ont consulté personne. Ils n'ont pas consulté le citoyen moyen. Ils n'ont même pas facilement laissé les journalistes venir entendre ce qu'ils racontaient. Cela, dit De Vriend, ne peut plus se faire aujourd'hui. D'abord, la biologie de synthèse est en train de se mondialiser, comme en témoigne sa quatrième conférence à Hong Kong. États-Unis, Europe, Asie, ça y est, la biologie de synthèse est mondiale. Un moratoire est de ce fait impossible. D'abord, une grande partie des résultats de la biologie de synthèse circulent sur Internet librement. On peut se brancher sur le site de Harvard et avoir et charger les bioblocs. Qu'est-ce que vous voulez faire un moratoire maintenant, alors que l'information circule dans le monde entier sur Internet? Le problème qui est en train de se poser, par contre, le problème technique qui gêne les chercheurs ou qui pourrait les gêner, c'est un problème de brevet, un problème de propriété intellectuelle. Car d'un côté, vous avez des gens comme Craig Venter qui prennent des brevets à tour de bras et même des brevets sur des choses qu'ils vont faire, qu'ils ont l'intention de faire, qu'ils feront dans l'avenir et qu'ils n'ont pas encore faites, pour se garder le terrain. Et de l'autre côté, vous avez les chercheurs du MIT qui, bon, ils ont quand même une ou deux startups qui prennent des brevets, hein, mais officiellement, ils ont un site internet et ils mettent tout sur le site. Et tout le monde peut utiliser l'information. Ensuite, bien sûr, il y aura des problèmes de biosécurité. Bien sûr, on peut craindre que, de même que quelques informaticiens, les hackers, comme on dit, disséminent des virus sur Internet qui parasitent vos ordinateurs. De la même façon, on peut imaginer que un petit chercheur en biologie frustré dans son coin va construire un virus très méchant qui va ensuite répandre dans la nature. Répandre une nouvelle grippe espagnole, par exemple, ça peut être tentant. Sans parler des États qui vont s'emparer de toutes ces possibilités et qui vont soigneusement, chacun pour soi, alors que l'armement biologique, les États se sont tous encouragés à ne pas chercher dans ce domaine. Mais si, on cherche pour se défendre. On a besoin d'armement biologique, de préparer une défense contre une attaque biotechnologique. Des problèmes comme ça, ça ne se résout pas, dit le rapport de Wendt, au niveau des chercheurs seulement. Des problèmes comme ça, ça se résout au niveau des États, des institutions internationales. Et donc, ce qu'il nous faut, ce n'est pas un Asilomar 2, c'est une prise de conscience globale des problèmes et une régulation globale, plus facile à dire qu'à faire. Ce qu'on voit se dessiner, comme dans d'autres domaines, est l'existence d'organisations non gouvernementales, d'ONG, qui se donnent comme tâche de surveiller les chercheurs qui font de la biologie de synthèse, comme cette organisation dont je vous ai donné le sigle, le ETC Group, qui est un groupe canadien, dont je cite ici un rapport, car ils ont aussi, je le disais tout à l'heure, écrit un gros rapport assez malveillant qui s'appelle « Extreme Genetic Engineering, an Introduction to Synthetic Biology ». Et là, ils tapent dessus à bras raccourcis et ils vous racontent ce que fait l'un, l'autre, ce que font le troisième, ce qu'ils font ouvertement puisqu'ils font un peu en cachette avec leur start-up qui cache derrière. Un très bon résumé de l'état actuel de la recherche mondiale est fait par le Post britannique dans une post-note. Post, c'est un sigle, ça veut dire Parliament Office of Science and Technology. Dans cette note que vous trouvez, elle aussi, sur Internet, vous trouvez un bref 3-4 pages, résumé de l'état actuel de la recherche en biologie de synthèse, de l'état actuel de la réflexion sur les problèmes que pose la biologie de synthèse, et donc éventuellement je vous renvoie à ce texte dont j'ai donné la référence. Et que conclure de cette exploration? Je l'ai dit avec De Vriend, on n'a pas encore construit la vie. On n'a pas encore synthétisé d'être vivant. Pourra-t-on le faire? On n'en sait rien. Les chercheurs du MIT qui se vantent de pouvoir reconstruire la vie avec des bioblocs, hein, et qui trouvent que ce que la vie a bricolé depuis des millions d'années, c'est lamentable, c'est pas simple, il faut simplifier tout ça et le standardiser. C'est par rapport à l'expérience du biologiste, du vrai biologiste avec une culture biologique, c'est une naïveté, certainement une naïveté. Cependant, on ne peut pas ne pas penser que dans l'évolution réelle sur la planète Terre, il y a eu un moment où on est passé de la chimie à la biologie. Donc le problème est posé, on ne l'a pas résolu. Le résoudra-t-on? On ne sait pas. Le résoudra-t-on avant quelques millions ou milliards d'années? On n'en sait rien. Mais le problème est posé et il est intéressant de travailler dessus. De travailler dessus et de réfléchir dessus. La réflexion la plus intéressante est actuellement dans un article de Tucker et Zielinskas que je cite dans ma conclusion et qui dit ceci. Pour le moment, les myriades d'implications, de conséquences de la recherche en biologie synthétique, on ne peut qu'en avoir une vue très, très faible. On ne sait pas ce que ça va donner. Ce champ a certainement le potentiel d'amener des changements historiques dans la médecine, l'agriculture, l'industrie, l'éthique, la politique, et d'ici quelques dizaines d'années, cela peut avoir une influence profonde sur la définition que nous donnons de la vie, incluant ce que cela signifie d'être un être humain. Donc, nous pourrions être amenés par cette recherche en biologie de synthèse à redéfinir l'humanité, à redéfinir la vie, ou au moins à réviser nos idées antérieures. Il nous annonce donc des révolutions considérables, non seulement technologiques, mais même dans la culture. Et il continue en disant « Les praticiens et les analystes politiques, les praticiens, c'est-à-dire les chercheurs, et les analystes politiques devraient engager un grand débat, un large débat sur la meilleure façon de guider la biologie de synthèse dans une direction qui allie la sécurité et l'utilité, au lieu d'étrangler le bébé dans son berceau. La peur qui se manifeste dans cet article est que la tentation des États ou des institutions de recherche soit de céder à l'anxiété suscitée par les rotomontades des biologistes de synthèse et d'interdire un certain nombre de voies de recherche qui pourraient être d'excellentes voies de recherche. C'est une crainte dont on ne sait pas si actuellement elle existe. En tout cas, on peut constater que l'Europe fait tout ce qu'elle peut actuellement pour éviter le genre de situation qui s'est passée en Europe avec les OGM, avec les organismes génétiquement modifiés, où il y a eu une panique générale, pas d'OGM dans nos assiettes, pas d'OGM dans nos champs. Hein. Et du coup, ça a stérilisé la recherche européenne, qui n'en a pas besoin, l'agriculture européenne n'en a pas besoin, elle est florissante, mais tout de même. Hein. Donc on sent que les institutions européennes essayent de faire mieux cette fois que pour les OGM, c'est-à-dire de réfléchir à l'avance, d'encourager les gens à réfléchir, de financer des projets qui ne soient pas contestables, etc. Toujours est-il que, à mon avis, les enjeux psychosociaux et éthiques sont en train de susciter toute une littérature une littérature presque drôle à lire parce qu'elle repose en partie sur l'imagination de ce qui va se passer ou sur la supposition de ce que les chercheurs pourraient réaliser, mais pour l'instant les réalisations sont très très minces. Et on a vu surgir, vous lisez bien, une sainte éthique. On appelle sainte éthique l'éthique de la biologie de synthèse. Il y a un article qui porte ce titre, sainte éthique, avec éthique TH. À mon avis, la réflexion sur ces enjeux sociaux, éthiques, est en train de s'engager et de susciter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions. Et par contre, une réflexion purement philosophique sur la façon de situer dans notre ontologie le vivant artificiel ou le vivant de synthèse ou le vivant partiellement synthétique ou partiellement artificiel, cette réflexion est encore à faire et on trouve très peu de choses là-dessus. Voilà, je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.